Et au menu de notre club cet après-midi, un tour du monde scientifique, une histoire du climat sur Terre, l'esprit sorcier sur le web, c'est pour bientôt, et la nouvelle autopsie d'une photo. Et vous pourrez bien sûr nous rejoindre avec vos messages et vos questions comme d'habitude sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, une énigme autour du Soleil en passe d'être résolue. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, depuis presque un siècle, les astrophysiciens sont perplexes. Pourquoi diable est-ce que l'atmosphère du Soleil est presque 500 fois plus chaude que sa surface ? Trois chercheurs français viennent de proposer une belle explication à ce mystère. On en reçoit l'un d'eux à la une.
Et c'est Violaine Ballet qui est aux commandes de l'émission. Un dossier préparé aujourd'hui par Anne-Cécile Perrin avec Thomas Delosier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Les invités du club des têtes au carré, Clémentine Bacry par téléphone. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Adrien Normier, Frédéric Courant et Gilles Rammstein qui sont avec nous en studio. Bonjour à tous les trois, bienvenue. Clémentine Bacry, Adrien Normier, entre 2012 et 2013, hein, c'est ça, vous avez traversé 50 pays, parcouru 60 000 kilomètres à bord d'un avion ultra léger pour un tour du monde scientifique. Au départ, Adrien, vous aviez une année sabbatique, c'est ça, à combler et vous cherchiez quoi en faire, hein ?
Loin de là. Ça faisait déjà cinq ans qu'on réfléchissait à un projet qui nous porterait, qui nous permettrait de nous faire notre idée sur le monde, de découvrir le monde, tout en apportant une forme d'utilité. Voilà, et c'est Clémentine qui nous a poussé dans nos retranchements pour concevoir ce tour du monde au service de la recherche scientifique.
Et vous n'êtes pas scientifique, Clémentine, hein ?
Non, moi je suis avocate. Et en fait, j'avais envie justement de sortir un peu du domaine que je maîtrisais pour découvrir le monde. Et le droit, c'est quelque chose qui est très très bien. Ça permet de comprendre beaucoup de choses dans les relations humaines, mais ça n'a pas grand chose à voir avec la planète qui évolue. Et donc j'avais envie de participer à des projets de recherche avec des scientifiques dans différents domaines qui s'impliquaient sur le terrain et qui essayaient de comprendre ce monde en mouvement.
Et c'est donc l'objet de ce tour du monde. Vous publiez le récit de 6 mois d'aventure dans un livre, Un tour du monde pas comme les autres, qui est publié aux éditions du Pommier. Gilles Rammstein, vous êtes climatologue et vous publiez un voyage à travers les climats de la Terre chez Odile Jacob. Est-ce qu'on a une idée du climat sur notre planète au moment de sa naissance, de sa formation, il y a 4,5 milliards d'années ?
C'est justement un domaine qui est assez compliqué. J'explique dans ce livre justement que, à cause des bombardements successifs qu'il y a eu sur Terre, du point de vue de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le climat, il y a comme un mur qui se situe, donc le début de l'histoire de la Terre, c'est 4,6 milliards d'années, un mur qui se situe plutôt à 3,8 milliards d'années, et jusqu'à 3,8 milliards d'années, on peut aller. Avant, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a comme un énorme bombardement, dont on peut voir des traces sur la Lune un peu, qui en fait a un peu brouillé les pistes.
Oui, on va en parler avec vous, puisqu'effectivement, vous retracez, c'est vraiment un projet de fou, l'histoire du climat terrestre, depuis donc quasiment la formation de la Terre jusqu'à aujourd'hui. Frédéric Courant, ravi de vous retrouver, vous êtes le cofondateur de l'émission C'est pas sorcier avec Jamie, et on apprenait cette semaine que vous alliez lancer un C'est pas sorcier 2.0 sur le web, qui va s'appeler l'esprit sorcier, et pour ça, vous avez fait appel au financement participatif, et apparemment ça marche très bien.
Hein. On est très contents. Ouais. Toute l'équipe de l'Esprit Sorcier est vraiment très heureuse aujourd'hui. Ouais. Ça marche bien.
Ça veut dire que les gens ont envie de vous retrouver.
Il y a l'argent évidemment, parce qu'on a tous besoin un peu d'argent pour mener une entreprise, mais surtout les messages de toutes les personnes qui participent sont vraiment, c'est vraiment encourageant.
Bon, c'est pour quand a priori, si
tout va bien, c'est septembre, mi-septembre prochain.
Donc c'est pour bientôt. Vous aurez un été studieux alors,
l'occurrence.
On va se retrouver dans un instant pour en parler avec d'autres sujets scientifiques. Puisqu'à la fin de cette émission, on retrouvera également Nicolas Filiot pour une nouvelle autopsie d'une photo. Il sera question aujourd'hui d'un mystérieux satellite. Vos messages, donc, et vos questions sur le site de la Tête au Carré. Et à la une de la science aujourd'hui, le mystère de l'atmosphère solaire enfin résolu. Alors que la surface de notre étoile ne fait que 6000 degrés, entre guillemets, les températures dans l'atmosphère du Soleil peuvent atteindre, elles, plusieurs millions de degrés. Observation déroutante, évidemment, qui est restée pendant des dizaines d'années parmi les grands mystères inexpliqués de la physique. La solution vient d'être publiée par un petit groupe de chercheurs français et nous accueillons pour en parler l'un des auteurs de cette étude parue dans Nature, Tahar Amari. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et à l'École Polytechnique. En studio également, Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Philippe, ce mystère de la température de l'atmosphère solaire, c'est Un vieux démon, une vieille obsession pour les astrophysiciens.
C'est un vieux mystère, parce que d'autant que je me souviens de ma carrière de journaliste scientifique,
j'en ai toujours entendu parler.
J'ai aussi entendu parler à plusieurs reprises de travaux qui faisaient état de progrès dans cette compréhension-là, pas plus tard qu'en 2013, il me semble. Et donc, effectivement, il y avait quand même un mystère qui date depuis le début du 20e siècle, à savoir comment le Soleil, qui est à environ 15 millions de degrés en son cœur.
Dans son noyau.
Dans son noyau, qui se retrouve à 6000 degrés ou 5800 degrés à sa surface. On voit que ça diminue à mesure que l'énergie se remonte. Comment ce soleil qui est à 6000 degrés à sa surface passe tout d'un coup à 1 million, voire 2 millions de degrés dans sa couronne? Alors, la surface, c'est difficile. Le soleil, c'est une boule de gaz. Donc, la surface optique, en tout cas, celle qu'on voit, ce qu'on appelle la photosphère, est à 6000 degrés. Et au-dessus, il y a un milieu beaucoup moins dense qui est constitué de particules, d'électrons, d'ions, etc. Enfin, d'un plasma, comme on dit en science. Et ce plasma est chauffé à jusqu'à 1 à 2 millions de degrés. Alors, c'est bizarre parce qu'on se demande comment quelque chose de relativement froid, on va dire, arrive à produire quelque chose d'extrêmement chaud.
6000 degrés, c'est très froid, évidemment. Voilà. Et l'homme que vous avez en face de vous, c'est Amari. C'est lui qui nous donne la solution. Publication Nature cette semaine. Sur ce complexe, ce phénomène très complexe, donc qui ressemble un petit peu à une histoire racontée à des enfants, puisqu'il y a des mots que vous employez, vous parlez de forêt, de mangrove, voire même de cordes de guitare. C'est quoi l'histoire, finalement, alors, de cette différence de température?
Eh bien, l'histoire, c'est d'aller, comme on vient exactement de l'entendre, d'aller chercher à chauffer ce qui devrait, à l'apparence, rester froid.
Ouais.
Et comment le chauffer, en fait? Si on simplifiait l'histoire, on dirait que c'est aller chercher de l'énergie, d'où elle peut probablement venir, c'est-à-dire de l'intérieur du Soleil, pour aller la restituer à l'extérieur. Et cette énergie, en fait, on est allé la chercher donc à l'intérieur du Soleil, et cette énergie s'est en quelque sorte transformée en de l'énergie magnétique qui représente une forêt, qu'on a appelée une forêt, avec des racines, proche d'une mangrove, parce que les racines qui sont créées par l'intérieur du soleil lui-même vont émerger, vont sortir, vont devenir proéminentes. Et comme une mangrove, ces racines vont avoir, vont donner suite, et disons, dans un prolongement de tronc d'arbres magnétiques. Alors évidemment, on parle de racines, on parle de tronc, de liane, mais avec un grand mot derrière, magnétique. Et en fait, ces racines vont simplement servir à convertir l'énergie qui vient de l'intérieur du soleil pour la restituer. Donc de l'énergie de l'intérieur du Soleil qui devient de l'énergie magnétique, dans des racines magnétiques, pour la restituer aux couches, à la couche dans laquelle ces racines se trouvent, qui s'appelle être la chromosphère, qui a une 10, 15, 20 000 degrés, et qui va la restituer comment? Comme un bâton de relais d'un coureur cycliste autour d'une piste d'athlétisme. Le bâton de relais étant l'énergie, eh bien c'est l'intérieur du Soleil la restitue aux racines, les racines la restituent au milieu par des éruptions. Les éruptions solaires, des petites éruptions, rien à voir avec les grosses éruptions solaires qui nous viennent jusqu'à la Terre, dont on a déjà parlé il y a quelque temps, eh bien, ces petites éruptions multiples vont donner le bâton de relais au milieu et libérer une quantité d'énergie. Et libérant cette quantité d'énergie, eh bien, ces racines vont continuer, ces éruptions, plus exactement, vont jouer de la musique. Vont jouer de la musique comment? Elles vont jouer de la musique en venant cogner les troncs d'arbres. Et les troncs d'arbres, c'est les troncs d'arbres magnétiques. Et ces troncs d'arbres magnétiques, comme une corde, ce que l'on pince et qui va produire un son, eh bien le son, l'onde, la vibration vont être des vibrations magnétiques qui vont prendre le reste d'énergie et l'amener dans la couronne.
Donc c'est ce système racinaire, si je vous comprends bien, qui va propulser au fond la chaleur au-delà de la surface du soleil en permettant donc cette température à des millions de degrés.
Oui, racines et troncs, oui.
Ouais. Axel.
Toutes ces racines, tous ces troncs, quand on observe le soleil, on peut les voir d'une certaine manière?
Alors, c'est une excellente question parce que le mot-clé, le mot important, c'est magnétique. Or, on ne voit pas le champ magnétique. Toute l'atmosphère solaire, c'est un peu comme de la limaille de fer. Il existe un champ magnétique derrière, mais on ne voit jamais le champ magnétique. Donc, ce que l'on voit quand on observe le Soleil, c'est du rayonnement, mais on va dire c'est de la matière. On voit la matière, les mouvements de matière. Mais derrière, au même titre que quand on jette de la limaille de fer autour d'un barreau aimanté, on voit se matérialiser le champ magnétique qu'on ne verrait pas, mais qui est pourtant là, et on va voir tout un tas de phénomènes. Donc, on ne voit pas les branches magnétiques, mais on voit la matière qui les constitue. c'est-à-dire des boucles solaires. Mmh. On voit, par contre, il est beaucoup plus difficile de voir les racines. Mais on voit les tas de phénomènes. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une météo solaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas la météo de l'espace qui nous vient jusqu'à nous. Mais ça veut dire des jets, ça veut dire des tornades, ça veut dire des petites éruptions. Tous ces phénomènes qui constituent une petite météo et qui vont donner même naissance à des vents de millions de kilomètres heure, eh bien, prennent naissance dans son milieu. Et donc, tout cela, on le voit. Mais le champ magnétique, on ne le voit pas.
Donc il faut imaginer le Soleil comme un sandwich au fond, hein, avec ses différentes températures, le noyau donc avec des millions de degrés, cette atmosphère couches. Aussi avec des millions de degrés, et entre les deux, donc ce serait la saucisse à 6000 degrés en surface, hein, si on veut imaginer les choses comme ça. Philippe Hénarejo, heureusement que Tara Marie nous explique ça avec des images, parce que tout le monde s'est arraché les cheveux sur la publication. Hein.
Oui, c'était terrible quand même. La physique solaire, j'en sais hélas quelque chose, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est une mangrove dans laquelle on peut se perdre facilement. J'avais une question. Votre travail, d'après ce que je comprends, repose sur des simulations numériques. Alors, est-ce qu'il est corroboré par des observations et est-ce qu'il y a des observations futures à mener pour le valider ?
Voilà. Dans tout travail, spécialement pour lorsque l'on propose des explications, il faut voir d'abord si, surtout quand il s'agit de simulations, si ça produit des résultats qui se rapprochent de ce que l'on observe. Donc, premier type de question, eh bien, qu'est-ce que l'on observe ? À la surface, nous sommes allés puiser le fonctionnement du Soleil dans une couche à l'intérieur du Soleil. On ne voit pas l'intérieur du Soleil, on voit l'extérieur du Soleil. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ? En surface du Soleil, on voit déjà, très bien, on sait le mesurer, le champ magnétique à toute petite échelle. Il a été beaucoup étudié. Donc, le modèle produit un champ magnétique. Regardons le champ magnétique qu'il produit. Et il y a une bonne relation proche entre le champ magnétique déjà produit par le modèle, par la simulation, et ce que l'on observe. Ensuite, je vous ai parlé de tornades. Sans même réfléchir à produire des tornades, puisque nous sommes posés simplement la question de savoir comment l'énergie de l'intérieur du Soleil va se produire, va passer la barrière de cette barrière de la surface du Soleil, nous avons trouvé des tornades. Il y a également des jets. Nous avons trouvé des jets qui ont été observés, qui ont fait une publication de nature, il y a 2-3 ans. Les tornades ont fait une publication de nature, mais elles étaient étudiées individuellement. Donc il y a un certain nombre de phénomènes que nous avons, que le modèle a produit sans chercher nécessairement à les produire.
Donc nous avons enfin la solution ?
Non.
Ah.
Là, c'est obligé que vous ne trouverez pas un chercheur.
C'est ce que tout le monde a dit pourtant. Ça y est, on a enfin trouvé la solution à ce problème.
Non, nous avons regardé le problème différemment. Nous retrouvons beaucoup de choses. Mais dans le problème, il y a des grosses parties, comme du plat, et puis il y a des parties un peu plus petites. Nous avons apporté une contribution intéressante.
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même une très belle avancée sur cette question posée donc par la chaleur de l'atmosphère solaire. Merci beaucoup Tara Amari, publication donc de la revue Nature cette semaine. Merci également Philippe Hénarejos et Axel, on se retrouve lundi.
Lundi, on écoute les podcasts tout le week-end et on se retrouve lundi.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un lien entre l'âge des parents et le risque d'autisme chez l'enfant vient d'être confirmé. Près de 6 millions d'enfants répartis sur 5 pays ont été suivis de 85 à 2009 et le verdict de cette cohorte internationale et sans appel, l'âge avancé des deux parents est un facteur aggravant de la maladie. Première surprise, l'étude confirme le rôle du père dans l'apparition de la maladie. Lorsqu'il a plus de 50 ans, le risque d'autisme s'élève à 66%. Deuxième surprise, les chercheurs notent une légère augmentation du risque également chez les très jeunes mères. C'est à ce jour la plus large étude portée sur ce sujet. Il n'avait jamais vu autant de calculs rénaux auparavant. Le docteur Wei Yubin n'en revient toujours pas. Il vient de retirer pas moins de 420 calculs rénaux à un homme de 55 ans. L'opération a duré un peu moins de 2 heures et selon le médecin, cette concentration de cailloux a une explication très simple, la passion débordante du patient pour le tofu. Ce chinois avoue en manger tous les jours depuis 20 ans et ne boire que très peu d'eau, rendant son élimination dans les urines très compliquée. Il faudra donc désormais accorder cailloux avec tofu. Et puis pour finir, l'un des plus grands requins blancs jamais observés a été filmé au large de l'île Guatalupa au Mexique, prénommé Deep Blue. Il mesure plus de 7 mètres quand ses semblables atteignent difficilement les 6 mètres. L'expert Mauricio Hoyos Padilla, qui est l'auteur de la vidéo, affirme que c'est le plus grand requin blanc qu'il ait jamais vu. Vous pouvez comme d'habitude voir la vidéo du monstre tournant autour de la cage d'un plongeur sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, le club dans un instant.
Because you care. is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. You could have your choice of men, but I could never love again. For me, Jolene, I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
C'est Dolly Parton dans La Tête au Carré, l'instant avec Jolene.
La Tête au Carré. Le club.
Et le club, comme tous les vendredis, avec aujourd'hui un tour du monde scientifique, une histoire du climat sur Terre et un C'est pas sorcier 2.0. Mes invités Clémentine Bacry, Adrien Normier, Frédéric Courant et Gilles Rammstein et vos messages. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr. Première escale dans ce club avec donc des ailes pour la science.
Moi, c'est Clémentine.
Moi, c'est Adrien.
On est tous les deux passionnés d'aviation.
Et aussi de voyage.
On a décidé de parcourir la planète.
Pour mieux la comprendre et essayer de nous rendre utiles.
Nous voilà donc, embarqués dans un tour du monde en 14 mois, à bord de notre avion ultra-léger. L'objectif, rencontrer des scientifiques aux quatre coins du globe, participer à leurs recherches sur le terrain et leur apporter un appui aérien.
Voilà, quelques années plus tard, eh bien c'est fait effectivement ce tour du monde, puisque Clémentine Bacry et Adrien Normier, vous publiez le récit de vos aventures dans ce livre. Un tour du monde, pas comme les autres, des ailes pour la science, c'est aux éditions le Pommier. Et Clémentine, donc, vous êtes avocate, vous nous le disiez tout à l'heure, au barreau de Paris et du Luxembourg. Et Adrien Normier, vous êtes diplômé en génie aéronautique et pilote de ligne. Et ça vous a beaucoup servi évidemment, parce que vous avez voyagé en avion pendant toute la durée du tour du monde.
Alors, pas en avion, en ULM.
En ULM, en avion ultra léger, on va dire. Voilà.
Voilà, c'est comme un avion, mais ça pèse un peu moins lourd qu'un poney.
Oui.
Voilà. Alors, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est revenu. Là, c'est bientôt le Salon du Bourget.
Mm-hmm.
Et on avait posé les roues à l'ouverture du Salon du Bourget, il y a 2 ans.
Oui.
Après, une aventure qui a fait un vrai tour du monde avec des stops sur des projets de recherche scientifique auxquels on apportait des informations et des données avec ce petit moyen léger, un ULM, on se mettait en l'air.
Voilà, et vous proposiez donc vos services, hein, c'était ça aussi l'origine de ce projet. Et Clémentine, donc on se retrouve un an après, puisqu'on avait fait connaissance au Salon du Livre, une émission qui s'est révélée assez fructueuse finalement pour vous.
Mais exactement, parce que c'est grâce à votre émission que le livre qu'on est très fiers de présenter aujourd'hui, puisqu'il sort aujourd'hui dans les librairies, est né. Voilà, c'est à la suite du rendez-vous qu'on avait fait avec vous en direct au Salon du Livre que la construction du livre est apparue.
Et c'est Pierre Léna, l'astrophysicien, qu'on recevait également cette semaine pour les 20 ans de la main à la pâte, qui vous a poussé aussi à écrire, hein.
Effectivement, Pierre Léna est en fait le parrain des ailes pour la science. Donc c'est lui qui nous a poussé à développer tout l'aspect pédagogique. Et c'est pour ça qu'on était présents dans des écoles tout autour du monde à participer à des projets créés par les élèves, des projets scientifiques créés par les élèves pour justement les impliquer dans des petites recherches qui étaient en lien avec leur programme scolaire. Et donc c'est Pierre Léna qui est responsable de la main à la pâte, qui est aussi donc parrain de notre initiative et qui nous a poussé à écrire un livre et qui en a d'ailleurs fait la préface.
C'est ça. 60 000 kilomètres donc pendant ce périple. Frédéric Courant, vous avez calculé, vous, le nombre de kilomètres que vous avez fait pour ces pas sorciers ou pas? Parce que vous devez en avoir des miles aussi.
Pas du tout, mais nous on avait un camion, donc ça va un peu moins vite, ça vole moins bien.
C'est moins rapide.
Mais là on va changer, hein, faites attention, hein, on a un bel outil là pour voyager.
Vous avez calculé à peu près le nombre de pays visités ou pas pour les missions?
Je pense à peu près pareil, une cinquantaine, 50-60.
Ouais. Entre 2013, donc 2012 et 2013, Adrien Normier, vous avez mis le cap sur une cinquantaine de pays, hein, justement. Comment vous avez choisi les projets scientifiques qui vous servaient d'escale et de prétexte donc à ces voyages?
Alors, plus qu'un prétexte, c'était une origine. L'ambition de Clem, c'était d'apporter une plus-value localement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a envoyé un mail à un copain qui bosse au CNRS en lui disant la chose suivante. Voilà, on s'est aperçu qu'avec un petit avion, un petit moyen volant, on pouvait vraiment apporter des choses à des problématiques locales. Exemple, faire une cartographie d'un site de fouille pour des archéologues, ou alors rechercher des baleines, ou encore faire une cartographie de la mangrove, justement. Si, parmi vos copains, vous avez des scientifiques qui aimeraient bien avoir une machine volante pour quelques heures, et qui, avec ces quelques heures, pourraient changer leur point de vue sur leur recherche, envoyez-les nous, on fera ces heures de vol.
Et c'est comme ça, au fond, que vous avez tracé un petit peu la carte de ce tour du monde, avec les réponses reçues?
On a pris la planisphère, on a posé les points aux endroits où on avait des réponses crédibles, parce qu'il y en avait pas mal qui voulaient juste faire des baptêmes de l'air.
Ouais.
Et puis ensuite, on a fait du relier les points. Voilà, c'est comme ça qu'on a conçu le trajet.
Donc Clémentine, le projet, c'était vraiment de participer aussi à ces projets scientifiques. C'était pas seulement d'être observateur sur place, hein.
En fait, voyager, c'est quelque chose qu'on a la chance de faire depuis très longtemps, en tout cas. Et donc là, cette fois-ci, on s'était dit qu'on aimerait bien être utile sur place. Être utile et être en contact avec des gens passionnants. Et donc, le meilleur moyen d'être en contact avec eux, c'est de leur apporter réellement un soutien, un support. Et c'était fondamental pour nous de pouvoir, oui, à notre échelle, hein, mais être utile. Et alors Adrien est très modeste en disant que ça vient de moi, parce que c'est quelque chose qui vient de nous deux, et c'est pour ça qu'on est partis ensemble.
Exemple avec le Canada, on va faire une petite escale justement pour vous, puisque vous avez aidé les chercheurs à observer les baleines au-dessus du Saint-Laurent, extrait de vos pérégrinations.
Sur le bateau comme dans l'avion, tout le monde scrute la surface de l'océan. Nous recherchons le moindre indice de présence animale, le moindre souffle qui nous indiquerait la présence d'une baleine. Une mission délicate, car ces mammifères marins peuvent rester sous l'eau sans respirer pendant de longues minutes. Soudain, Adrien aperçoit enfin un groupe de cétacés.
Oui, c'est un requin commun qui est entagué.
Je tremble presque d'excitation. Dans quelques instants, je vais pouvoir admirer de près des baleines pour la première fois.
Voilà, et Adrien Normier, derrière l'observation des baleines, il y avait un enjeu particulier aussi pour vous à l'occasion de ce voyage. Hein.
Alors, sur ce point précis du Canada, oui, il y avait un enjeu. La station de recherche des îles Mingan, à cette époque-là, ne disposait pas de moyens volants pour repérer les animaux.
Oui.
Et donc se contentait du rayon de recherche permis par ces deux zodiacs. L'occasion de notre mission sur place a été de repérer plus d'une trentaine de groupes d'animaux à des distances bien plus lointaines. Et c'était important. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, au Canada, il y avait un moratoire sur la prospection pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent qui était sur le point d'être levé. La levée de ce moratoire s'appuyait sur un raisonnement assez ridicule quand on le regarde de loin. C'était de dire, voilà, ça fait 30 ans qu'on a des scientifiques qui observent des baleines à 20 km de l'endroit où ils sont basés. Donc, il n'y en a pas autre part. Donc, on peut aller faire de la prospection autre part. Donc, nos relevés sont venus alimenter la base de données qui a été présentée, qui a permis de repousser la fin de ce moratoire sur la prospection pétrolière. Au-delà de ça, ça nous a permis d'identifier des baleines que les scientifiques recherchaient pour pratiquer des biopsies et vérifier à travers des petits échantillons de peau, comme on fait chez le dermato, la présence ou non de toxines dans la peau des animaux.
Donc vous leur avez vraiment permis de gagner beaucoup de temps avec le survol justement en ULM du Saint-Laurent?
Alors, gain de temps pour les biopsies et puis gain d'informations sur la présence des animaux.
Ouais. Clémentine Bacry, il y a eu d'autres découvertes justement, grâce à vous quand même et grâce à cet avion ultra léger, dans d'autres pays évidemment.
Oui, on a eu beaucoup de chance. Effectivement, Mathieu, on a eu beaucoup de chance parce que avec quelques heures de vol, on a pu être impliqué dans des découvertes très chouettes. Mmh. Il y en a une notamment au Pérou. On était sur une mission archéologique dans le site de Caral Soupé, qui est un site qui a 5000 ans d'âge. assez gigantesques. Il y a même des pyramides dans ces endroits-là. Et en fait, donc on était chargé de faire une cartographie et un modèle 3D de la zone de fouille. Et en s'éloignant un tout petit peu, on a découvert des géoglyphes, c'est-à-dire des dessins faits à partir de pierres posées sur le sol que les archéologues n'avaient jamais pu découvrir. Parce qu'en fait, depuis le sol, on n'arrive pas à s'en apercevoir. Ouais. C'est des dessins qui sont trop gros et qui s'aperçoivent que depuis une vue aérienne, justement.
Vous avez pu survoler des volcans également, Adrien Normier. C'était dans quel pays? Je crois en Indonésie, c'est ça?
Alors, on a une belle histoire d'amour avec les volcans. Le tout premier, c'était la mission zéro de Diesel pour la science au Vanuatu sur le volcan Yazoo.
Ouais.
Et alors, les données qu'on a récupérées à cette occasion, Élodie, si tu nous entends, on vient de donner lieu à la publication d'une thèse. Voilà. Donc ça, c'est un beau débouché, on est heureux comme tout. Mmh. Et à l'époque, on travaillait sur la réalisation d'un modèle 3D du dôme résurgent de ce volcan, qui se déploie à une vitesse importante. Dans Diesel pour la science, on avait une mission sur les volcans, en Indonésie. Alors l'enjeu, c'était sur les volcans qui s'y prêtaient de réaliser des modèles 3D des sommets, et sur le volcan Krakatoa, en particulier, de mesurer des mesures d'émanation de dioxyde de soufre.
Et là aussi, vous avez apporté des informations scientifiques finalement aux chercheurs sur place?
Ah bah tout à fait, parce qu'on a embarqué à bord de l'ULM un petit télescope connecté à un spectromètre qui nous a permis, en faisant des passages sous les dégazages du volcan, de mesurer le flux de dégazage.
Voilà, quelques exemples en tout cas de vos aventures. 6 mois de voyage. Vous allez repartir, Clémentine Bacry? Je crois que c'est
Pas 6 mois, 14 mois.
14 mois, mais 6 mois de récit en tout cas. Et Clémentine, vous allez repartir quand alors, a priori?
Et alors effectivement, on a prévu de repartir. Donc juste pour revenir là-dessus, le voyage a duré 14 mois. Le livre en raconte que 6 parce qu'il y a le livre suivant qui est en cours d'écriture.
C'est ça.
Qui devrait raconter les 6 mois restants. Et alors ensuite, oui, on a prévu de repartir parce que c'était tellement génial qu'on veut continuer.
Mm-hmm.
Et sauf que cette fois-ci, on monte un peu en gamme, donc ça sera plus long et l'équipe s'agrandit.
Voilà.
Adrien, je te laisse en dire plus.
Vous serez accompagné, a priori, d'un petit enfant qui va naître bientôt.
On n'en dira pas plus.
Alors effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu me rendre avec vous dans les studios et que je suis par téléphone.
Voilà, absolument. Mais en tout cas, on va suivre la suite de vos aventures. Il y a Wings for Science, donc des ailes pour la science. C'est un site internet qu'on met évidemment en lien sur La Tête au Carré. Et puis un certain nombre de films que vous avez réalisés avec la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte qui sont à visionner. Et là également, on met le lien. En attendant, on peut lire aux éditions Le Pommier Un tour du monde, pas comme les autres. Une grande histoire du climat. C'est dans un instant la suite de notre club.
Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison, bon lieu où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ces gens, ces braves gens de la Varenne et de nos gens. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais, je suis qu'un petit Français. Simplement.
un album projet autour de Charles Trenet, extrait de Benjamin Biolay, Revoir Paris dans ce club des têtes au carré. Nouvel invité Gilles Rammstein, vous êtes climatologue et directeur de recherche au CEA. Vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, laboratoire CEA CNRS et Université de Versailles-Saint-Quentin, tout est dit. Et Voyage à travers les climats de la Terre, donc qui sort chez Odile Jacob. C'est un gigantesque voyage à travers les climats depuis 4 milliards d'années. Est-ce qu'il est facile de convaincre aujourd'hui un éditeur de publier un livre sur le climat, étant donné la profusion d'ouvrages sur la question, et en particulier dans le cadre de cette année climatique et de COP21?
Ouais, bah vous imaginez bien que, en fait, pour parler de climat sur 10 milliards d'années, je m'y suis pris un peu à l'avance.
Ouais.
Donc à l'époque, déjà, c'était un peu moins comme vous racontez là. Et puis, justement, quand on m'a demandé d'écrire un bouquin sur le climat, j'ai eu la réflexion que vous avez, qu'il y en a plein.
Il y a embouteillage
en
ce moment.
Et puis, il y en a très bien, déjà. Ouais. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une idée originale.
Ouais.
Et j'ai réfléchi, je me suis dit, l'histoire du climat de la Terre, du début jusqu'à la fin, personne ne l'a fait. Bah, évidemment, personne ne l'avait fait parce que
c'était un projet.
Pourquoi, ouais. Ouais, on comprend pourquoi. Voilà, c'est ça. Donc ça m'a pris du temps, beaucoup de temps. Ouais. C'est un peu comme le mythe de Sisyphe parce que c'est de la recherche qui bouge.
Ouais.
Donc au fur et à mesure que vous construisez votre mur, il y a des briques qu'il faudrait changer.
Mm-hmm.
Donc c'est un peu interminable. Mais bon, j'ai quand même terminé.
C'est vrai. Et comment vous travaillez? Alors, quelles archives sont disponibles pour connaître cette histoire climatique de la Terre?
Alors, ça, c'est une question. Si on remonte le temps là, aujourd'hui vous avez beaucoup d'archives parce que vous avez plein d'êtres vivants et on appelle des fonctions de transfert, des fonctions qui permettent à partir de la distribution des êtres vivants, vous regardez, vous classez les êtres vivants ou les végétaux par classe, hein.
Mm-hmm.
Et en fait cette distribution par classe, elle est tout à fait, elle vous permet de remonter à des températures. Donc ça on peut le faire tant qu'on a beaucoup d'éléments vivants.
C'est-à-dire, expliquez-nous, je ne comprends pas, on a des animaux par exemple ou des végétaux
par exemple, si
et ils racontent l'histoire du climat passé ?
Oui, on peut. Par rapport à la répartition des animaux et des végétaux aujourd'hui, réussir à faire des transferts, ce qu'on appelle dans notre vocabulaire des transferts, c'est-à-dire que sachant que vous avez, je vais dire les choses très 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 facilement, 10% de tortues, 40% de crocodiles sur le continent en bord de mer,
ouais.
Vous savez que forcément, pour que vous ayez toute cette biodiversité, c'est aussi vrai pour les plantes évidemment, pour que toute cette biodiversité, ça correspond
D'accord.
à un certain type de climat.
Mm-hmm.
Donc sur l'actuel et tout ce qui est subactuel, certains ne pourraient pas trop loin dans le passé, on peut utiliser ce type d'indicateurs. Mais il y a des indicateurs qui sont beaucoup plus universels au sens temporel, comme le fait que la fraction d'isotopes pour un atome donné varie. Apparaît en fonction de paramètres physiques.
Mmh.
Et en fait, c'est ces indicateurs-là qui permettent de remonter extrêmement loin dans le temps. Donc on sait décrire les climats de la Terre, d'autant mieux qu'on est près d'aujourd'hui, avec plus d'incertitudes quand on remonte très loin.
Bien sûr,
mais on est capable de comprendre les climats de la Terre à peu près depuis leur origine, au moins en tendance, jusqu'à aujourd'hui.
Dans les roches, dans la glace également, hein, on a des archives très importantes.
Ouais, mais vous savez que le temps de la glace, c'est un temps court sur
mais
Terre.
Oui,
parce qu'en fait...
Ça.
Les calottes de glace dont on dispose aujourd'hui...
C'est 1 million d'années maximum,
voilà,
c'est ça.
Hein. Si,
oui.
On peut espérer, là, les gens qui travaillent sur ces thématiques-là espèrent monter jusqu'à 1,2 million d'années en Antarctique, parce que l'Antarctique, en fait, est le plus grand désert du monde. C'est-à-dire c'est l'endroit où il y a une accumulation et une ablation tellement faibles qu'on accumule des épaisseurs relativement faibles pour des très grandes échelles de temps. Mais malgré ça, le temps de la glace, disons, aujourd'hui sur Terre, c'est 1 million d'années.
C'est la jeunesse, c'est la prime jeunesse de la Terre, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire climatique terrestre? Alors, c'est une grande histoire d'alternance entre des périodes chaudes et froides, avec des durées très variables, ou est-ce qu'on observe, peut-être comme sur le Soleil d'ailleurs, des cycles climatiques terrestres?
Alors justement, c'est très intéressant tout ce que tu as raconté sur la météorologie du Soleil.
Ouais.
Parce que si on se place maintenant sur une espèce de climatologie à très long terme du Soleil, la Terre devrait être blanche, toute blanche. Pourquoi ? Parce que le soleil, c'est très beau, poétiquement, et puis c'est une mangrove, comme Tar l'a raconté. Mais en fait, c'est quand même un réacteur nucléaire. Et donc, on sait très bien comment évolue la luminosité du soleil. Et donc, là, il est dans sa séquence primaire. Et donc, chaque année, chaque milliard d'années, il prend 7% d'augmentation.
Ah oui, sur Terre ?
Voilà. Et donc, en fait, si vous projetez vers l'arrière...
Donc, c'était beaucoup plus sombre,
hein. Non.
On avait beaucoup moins de lumière.
Non, toute l'intensité de la Terre, c'est toutes ces 99% vient du soleil. Donc, c'est fondamental. Et donc, il y a 4 milliards d'années... Donc vous avez 7% par milliard d'années, ça vous fait à peu près 30% d'intensité en moins.
D'intensité.
Donc en fait, vous aviez un soleil qui était toujours beau et brillant, mais un peu plus blême.
Ouais.
Mais ce un peu plus blême, 30% d'énergie en moins, c'est énorme.
Ça change tout.
Et donc ça change tout et ça fait que la Terre devrait ressembler à une planète complètement gelée.
Ouais. Alors les nimbes justement du climat terrestre nous font remonter à combien? Alors vous disiez, il y a eu tout un épisode au fond, il ne s'est rien passé, on n'a pas de témoignage. Bon,
ouais, vous savez que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence.
Absolument.
Voilà.
Donc, mais là, pour l'instant...
Il faut faire attention. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des raisons, parce que sur Terre, c'est la seule planète vivante sur laquelle on a des indices jusqu'à, disons, 3 milliards d'années. On sait plein de choses sur Terre. Mmh. On va découvrir certainement des exoplanètes et tout ça, mais sur Terre, on sait énormément de choses. Et on sait en particulier que la Terre, bien que le Soleil soit plus jeune, ne s'est pas englacée. Donc, c'est qu'il y avait des processus qui ont fait que ça ne s'englaçait pas. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, finalement, pourquoi, sur 4 milliards d'années, c'est des distances temporelles énormes,
oui.
Pourquoi la Terre a toujours été plus ou moins régulée, chaude? Est-ce que je veux dire par régulée, chaude? C'est-à-dire sans calotte de glace, la plupart du temps.
Ça aurait pu être une boule de glace, mais effectivement, pourquoi ça n'a pas été le cas?
Et ça, c'est une question. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Pourquoi, après, le climat sur Terre, le CO2 dans l'atmosphère, ont été plus ou moins régulés? Et donc, dans ce livre, c'est ça que je raconte. Je raconte pourquoi la Terre ne s'est pas englacée.
Ouais.
Enfin, elle ne s'est pas englacée grâce au gaz à effet de serre. Pourquoi son climat a changé, mais dans un spectre qui est resté tout le temps compatible avec la vie. Et ça, c'est le lien avec la tectonique des plaques. Et puis, plus récemment, là, sur le dernier million d'années, vous avez commencé à en parler. Eh ben, en fait, il y a aussi la cryosphère. Donc, sur le dernier million d'années, on avait 4 calottes de glace. La plupart du temps, là, on vit dans un monde un peu chaud. Il n'y en a que 2.
Mm-hmm.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est 80% du dernier million d'années, on avait 4 calottes de glace avec 2 calottes en plus et des grosses qui faisaient à peu près 120 mètres de niveau marin alors que celles qui nous restent aujourd'hui font 60 mètres de niveau marin si elles fondaient. Donc c'est des rythmes, si vous voulez, qui se sont succédés avec des processus physiques qui sont différents suivant les tempos. Et c'est ça, en fait, que j'analyse dans le livre.
Mais est-ce qu'il y a une régularité, justement, dans ces tempos, Gilles Rammstein, ou pas du tout?
Non.
Il n'y a aucune logique, au fond, dans le climat.
Il y a une logique. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un peu comme les temps d'une valse. Et le premier temps de la valse, c'est le temps du milliard d'années. Et qu'est-ce qui maîtrise ça? En gros, c'est le soleil. C'est le fait que, comme je vous l'ai dit, il augmente. Ensuite, si on passe dans les mailles du temps, on a plutôt la tectonique. Donc, si vous regardez, si par exemple, Clémentine monte sur son petit ULM et prend de la hauteur pour voir un peu la surface de la Terre, elle verra que tous les 10 millions d'années, ça change, la tectonique des plaques. Ça module beaucoup le climat, évidemment. Et puis, sur des échelles de temps plus courtes, on a ce qu'on appelle la variation des paramètres orbitaux, qui sont liés au fait que la Terre n'a pas une trajectoire exacte et ne reçoit pas une luminosité tout le temps la même. Là, il y a des cycles, à peu près 200 000 ans.
Mmh.
Et puis, ce qui fait que, si vous voulez, depuis 1 million d'années, il se trouve que tous les 100 000 ans, on a une glaciation, et puis tous les 20 000 ans, 30 000 ans, et puis pendant 20 000 ans, 30 000 ans, on a une période plutôt calme dans laquelle on est.
Oui.
Et ça, c'est, si vous voulez, le tempo, c'est-à-dire c'est comme ça, en gros, que se danse la valse. Et sur ce, vous avez l'émergence de l'homme, et ça nous fait passer un peu aux thématiques que vous disiez, qui lui ne travaille pas sur les milliards d'années, les millions d'années, les dizaines de millions d'années, mais travaille sur modifie le climat à des échelles de centaines d'années.
C'est ça.
Qui sont beaucoup plus rapides. C'est le quatrième temps de la valse. Le temps de l'homme est beaucoup, beaucoup plus rapide que tous les temps que je décris.
Avec l'Anthropocène, effectivement.
Avec l'Anthropocène.
Mais alors, la prochaine période de glaciation, elle est prévue pour quand? Parce que finalement, on s'inquiète avec le réchauffement climatique, on n'a qu'à attendre la glaciation, et puis tout va rentrer dans l'ordre. Gilles Rammstein, on n'aura pas besoin de faire de COP21, non?
Je crois que vous avez bien suivi. Alors, en fait, oui, c'est une très bonne question. L'interglaciaire dans lequel on est, un interglaciaire dure environ 20 000 ans. Il a commencé il y a 10 000 ans.
Oui.
Bon, déjà, même s'il était normal, on aurait encore 10 000 ans à faire. Mais il se trouve que celui-là est un peu long. Il va durer à peu près 40 000 ans. Donc, c'est pas ça qui va nous sortir de l'ennui.
Oui.
Par contre, ce qui est vraiment rigolo quand vous regardez, c'est que dans les années 60, avant qu'on parle de l'augmentation de l'effet de serre et tout ça, l'angoisse des gens, ce sur quoi on faisait des films, c'était le retour des glaces. Et ça, ça a complètement disparu. Maintenant, on sait que le retour des glaces, c'est pas le problème qui va nous prendre à la gorge dans les prochaines dizaines d'années.
L'apparition de l'oxygène, justement, dans l'histoire de la Terre, ça, c'est un événement majeur, évidemment.
Ah oui, c'est un
qui va totalement influencer le climat terrestre.
Alors, vous pourriez vous dire, mais pourquoi l'oxygène, qui n'est pas un gaz à effet de serre?
C'est ça, quel est
pourquoi
le lien?
Pourquoi le gaz à effet de serre, l'oxygène, l'irruption de l'oxygène, c'est fondamental pour tout ce qui est biologique, toute la biologie qu'on a aujourd'hui construite sur ça. Et en fait, sur les 4,6 milliards d'années, l'oxygène est apparu à 2,2 milliards. Donc la moitié de la vie sur Terre s'est faite sans oxygène.
Ouais.
Mais pourquoi, vous me demandiez, pourquoi l'oxygène, qui normalement n'interfère pas? Parce que une raison pour laquelle on pense que la Terre a été chaude alors qu'on avait un soleil jeune, c'est parce qu'on avait beaucoup de méthane dans l'atmosphère. Et le méthane sur Terre, contrairement à Titan, ne peut être que biologique.
Mmh.
Or, l'oxygène est un poison pour les archées méthanogènes qui font du méthane. Donc, l'oxygène, indirectement, parce qu'il a été un poison pour ces bactéries, que ces bactéries produisaient, ces archées, excusez-moi, produisaient du méthane, il a eu un effet climatique qui a été un effet de refroidissement et de glaciation.
Mmh.
Et on pense que la première glaciation importante, peut-être globale, qu'on appelle la glaciation huronienne, elle est liée à l'irruption de l'oxygène dans l'atmosphère et l'océan.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors après, justement, cette irruption ?
Alors, ça a changé donc assez rapidement le climat, ça l'a refroidi, on a peut-être une glaciation. Alors là, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de le faire très simple. Quand une petite terre bleue se transforme en terre toute blanche, essentiellement l'effet, c'est qu'elle est très réfléchissante. C'est comme une boule de glace. Et donc, elle réfléchit l'énergie du soleil au lieu de s'en servir pour faire du mouvement avec l'atmosphère et l'océan. Et donc, pour déglacer cette boule blanche par le soleil, il faudra attendre des milliards d'années. Bon, bah ça serait, vous êtes là, moi aussi, je suis là. Donc, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, il y a un autre processus. Et souvent, dans le livre, j'explique ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut faire irruption d'autres processus, émerger d'autres processus qui expliquent. Et bien, le processus, c'est que dans une terre toute blanche, le volcanisme continue. Et donc, le CO2 est émis par les volcans. Et comme il ne peut pas être pris par l'océan qui est couvert de glace et par le continent qui est couvert de glace, il ne réagit pas. Donc, il se stocke dans l'atmosphère jusqu'à faire une débâcle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après l'irruption de l'oxygène sur le plan climatique, sur le plan biologique, plein de choses. Eh bien, c'est qu'on est d'abord un épisode très froid, qui a pu être une glaciation globale, peut-être. Et ensuite, on en est sorti comme ça, non pas par le soleil, mais par les gaz à effet de serre. Et ensuite, il a continué à faire chaud et beau.
Gilles Rammstein vous racontait également, on n'aura pas le temps de l'évoquer, hélas, dans ce club, mais on laisse au lecteur le soin de le faire, l'émergence de l'homme dans un contexte climatique peut-être quand même assez particulier. Et toute cette histoire, ce travail absolument gigantesque que vous avez mené, Tahar Amari, il faudra nous faire la même chose sur le soleil. Au fond, il y a aussi des grandes choses à raconter. Ça s'appelle « Voyage à travers les climats de la Terre » avec une préface de Michel Brunet. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Vous restez avec nous dans un instant. On accueille Frédéric Courant pour... C'est pas sorcier, ou plutôt l'esprit sorcier qui arrive bientôt sur le web.
Don't know if I can open up.
Et c'est Marilyn Manson sur France Inter.
Le club carré sur France Inter.
Frédéric Courant, de retour dans ce club. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pas pour des très bonnes nouvelles.
Hein. Non, c'était pour un départ.
Ouais, c'était pour l'arrêt de C'est pas sorcier.
Oui, absolument.
C'était il y a combien de temps?
Il y a deux ans.
Il y a deux ans. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé en deux ans, alors, finalement?
Ce qui s'est passé au niveau de la chaîne ou
Pour vous, surtout.
Quand C'est pas sorcier s'est arrêté, une autre aventure a continué avec Jamy, mais il a continué à faire une émission qui s'appelle Le Monde de Jamy sur France 3. Moi, j'ai quitté France Télévisions et je me suis attelé avec toute une équipe, Pascal Léonard et d'autres personnes de C'est pas sorcier, à essayer de relancer un C'est pas sorcier, un esprit sorcier sur le net. Ouais.
Vous avez eu combien de courriers, de réactions à l'époque? Je me souviens, il y avait vraiment...
Il y a eu des pétitions, il y a eu 40 000 personnes. Il y a eu beaucoup de pétitions, il y a eu une mobilisation très importante, c'était important. Ça n'a pas changé les choses, malheureusement, on les remercie encore, ces personnes-là, mais si ça nous a encouragés, ça nous a donné du baume au cœur pour continuer l'aventure.
Et l'idée, donc, maintenant, c'est de retrouver l'esprit sorcier, le nom, sur le web. Alors, le titre, ce ne sera pas C'est pas sorcier, c'est l'esprit sorcier.
C'est un peu volontaire. C'est parce que C'est pas sorcier, ce sont un peu nos racines, comme dans une mangrove. Hein. C'est un peu ça. Mais on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, on passe sur un autre média. Donc, ce média, ce n'est plus la télévision, c'est Internet. Mais l'esprit est là, une grande partie de l'équipe est là, tout est là.
Il y aura le duo Fred et Jamy ou pas du tout?
Ça, c'est la grande question. C'est important que vous la posiez, parce qu'on nous la pose tous les jours. Depuis un an et demi, Jamy fait le monde de Jamy. Il fait le tour du monde tout seul. Je le plains, le pauvre.
Oui, bien sûr.
Il fait 4 émissions par an. On est très triste pour lui. Donc, il circule partout dans le monde. Il a un agenda qui est très occupé. On se rencontre régulièrement. Il est au courant du projet depuis bien longtemps. Moi, je l'en parle régulièrement. Mm-hmm. Il nous soutient déjà. Et puis, je pense qu'il va venir collaborer. Ce sera à lui de choisir. Il faut surtout trouver un créneau dans son emploi du temps. Mm-hmm. C'est toute la difficulté qu'on a actuellement.
Bon, il est partie prenante. Il vous soutient de toute façon dans ce projet.
Bien sûr, il fait partie de l'esprit sorcier.
Aurélien nous dit ceci. Rassurez-moi, est-ce que votre émission sera gratuite, en accès gratuite, même en prépa? J'ai compris des choses en regardant des épisodes de C'est pas sorcier, nous dit-il.
Absolument, ce sera gratuit, c'est le but de ce site. D'ailleurs, je précise au passage que c'est quelque chose que je développe aussi avec l'association des petits débrouillards, qui est un gros réseau en France de vulgarisation scientifique qui est vraiment important. Et notre volonté, c'est de rendre la science accessible à tous. Alors, si on veut la rendre accessible à tous, c'est déjà de la rendre gratuite. Mm-hmm. Bon, ça nous pose un certain nombre de problèmes de financement, évidemment.
Alors, c'est pour ça qu'il faut payer, là, pour l'instant, et que vous avez fait appel aux contributeurs avec
le
crowdfunding.
Voilà, absolument. On a eu la chance, quand même. Je cite au passage, quand même, je les remercie beaucoup, le Conseil régional d'Île-de-France qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier, parce qu'après un an de travail avec l'équipe, où on a démarché pas mal de collectivités territoriales, etc., le Conseil régional d'Île-de-France nous a donné une bonne subvention qui nous permet aujourd'hui de fabriquer le site, d'acheter du matériel pour l'école, parce qu'on a un projet d'école aussi. Et ce qu'il nous faut, c'est fabriquer les contenus. On a trouvé que c'était aussi quelque chose d'assez noble à proposer aux gens, à toutes les personnes qui nous suivent depuis longtemps. Donc ça correspond en plus à l'esprit participatif qu'on veut sur cette plateforme. Donc on a lancé ça, ça marche très bien.
Vous vouliez 50 000 euros, je crois, c'est ça au départ?
Oui.
Besoin.
Voilà, on a besoin d'alimenter les choses, on est très précis. Nous, on a besoin d'une base comme ça pour se lancer de septembre à décembre 2015. Pour aider à fabriquer les contenus, on a besoin de cette base. Il se trouve qu'on l'a atteinte. Notre campagne dure jusqu'au 27 juillet. On a donc plus de 50 jours de campagne et au bout de 5 jours, on a déjà atteint cette première étape. Ouais. Donc la campagne, elle continue, c'est important de le dire. Et maintenant, on construit le deuxième étage de la fusée. C'est-à-dire que plus on aura de personnes qui nous aideront, plus on gagnera notre indépendance éditoriale, c'est ce qui nous compte, ce qui est cher pour nous.
Oui. Tahar Amari, vous avez regardé, vous, C'est pas sorcier à la télévision ou pas? Parce que vous avez reconnu tout de suite Fred quand il est arrivé. Ah, mais c'est vous qui faisiez l'émission.
C'est la voix, bien sûr.
ça représente quoi pour un chercheur de haut niveau comme vous, ce type d'émission scientifique, par exemple, en direction du jeune public?
C'est variable, peut-être que voilà. Pour moi, ça représente, personnellement, ça m'a donné envie d'expliquer. Ça m'a donné envie d'expliquer autrement les choses. Donc si je peux peut-être que si quelque part je parle un peu de mangrove, c'est peut-être un peu
la racine est peut-être. Ça nous aide à sortir de l'aridité un peu du vocabulaire des publications Nature, par exemple. Ouais, Gilles Rammstein.
Ah ben moi, c'est un monde quoi. Mes enfants, ils ont une vingtaine d'années maintenant. Mm-hmm. Et quand ils étaient petits, c'était presque une messe quoi. Bon, regardez ça. Mais je crois que le plus motivé, c'était quand même moi. Elles ont été un peu moins scientifiques, mais quand même, c'était un vrai plaisir quoi. Ouais.
Donc validé par les scientifiques, Fred, c'est quand même drôlement important.
Ah ben c'est important, mais ça l'a toujours été hein, parce qu'on s'est toujours fait un peu les passeurs entre les scientifiques et le monde des personnes qui ignorent les sciences ou qui veulent les découvrir. Ouais. Donc on est des passeurs, mais on a toujours travaillé avec les scientifiques évidemment. Ouais.
Alors l'esprit sorcier, ce sera quoi? Ce sera une chaîne de télé?
Non, c'est pas une chaîne de télé, on est sur le net. C'est une plateforme numérique, ce qu'on appelle une plateforme numérique. Il y aura notamment, je vous décris brièvement, hein, je rentre pas dans le détail des programmes, on veut suivre une ligne éditoriale où chaque semaine, il y aura déjà un grand dossier scientifique qui sera traité en profondeur. Notre but, c'est de donner toutes les clés, comme on le faisait avant, pour réussir à appréhender une question sur le climat ou autre chose. Enfin, c'est d'avoir toutes les clés pour se forger sa propre opinion. Oui. Ça, c'est important. Alors, au lieu de le faire dans quelque chose de linéaire qui fait 26 minutes comme une émission de télé qu'on avait avant, eh bien, on va le faire de façon multimédia, mais avec les mêmes outils, c'est-à-dire des reportages qu'on va aller faire sur le terrain, des témoignages, des interviews de scientifiques, et évidemment des maquettes, etc., mais version numérique, et on va voir, on est en train de préparer tout ça. Enfin, on fait du pédagogique, voilà. Et puis, il y a quelque chose qui nous tente aussi, c'est d'ouvrir les sciences au débat public. Donc, la Web TV, ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois que les gens ont les clés pour appréhender une question, une grande question scientifique qui fait partie de notre vie en société, c'est de pouvoir la soumettre au débat entre des scientifiques, des gens, faire le tour de France. On souhaiterait vraiment faire un tour de France d'émissions de l'esprit sorcier pour aller à la rencontre des Français et qu'ils débattent avec des scientifiques des grandes questions qui nous intéressent tous.
Et vous parliez d'une école aussi,
ouais.
Fred?
Oui, ça va avec. C'est pas quelque chose en plus. C'est quand on a lancé cette idée. Moi, j'ai toujours été convaincu. En 20 ans de C'est pas sorcier, on a formé beaucoup de journalistes. Certains sortaient d'écoles de journalistes, d'autres étaient des autodidactes. Chez certains, il y en avait des bons et des moins bons. Chez les autres, il y en avait des bons et des moins bons. Je suis convaincu que c'est le métier de passeur est accessible à tous, à condition d'en maîtriser les techniques. Donc, on s'est lancé au départ et on est pas mal aidé par la Seine-Saint-Denis, notamment là-dessus. On voulait ouvrir une école pour des jeunes des quartiers prioritaires pour en faire des passeurs de sciences. Et puis, ça prend un petit peu plus d'ampleur, on va peut-être organiser en plus des stages pour des scientifiques aussi, des enseignants, etc., etc. Mais le but prioritaire, c'était de permettre à des jeunes qui n'avaient pas accès de goûter à ce métier qui est un vrai plaisir.
En route et belle vie à l'esprit sorcier.
Merci
la
beaucoup.
Plateforme participative, c'est sur Kiss Kiss Bang Bang et c'est en ça. Lien sur la tête au carré. Vous êtes à 69 229 euros là pour l'instant, donc c'est pas mal. Ça a même augmenté pendant l'émission.
C'est bien, c'est bien que ça continue. Merci hein, surtout à tous les contributeurs.
Merci Frédéric Courant. Allez, on termine, comme souvent dans ce club avec vous, Nicolas Filiot, bonjour.
Bonjour.
Avec cette semaine pour le blog Autopsie d'une photo, eh bien, vous avez tourné votre regard vers l'espace à la recherche d'un mystérieux satellite.
Il y aurait en orbite autour de la Terre un étrange objet dont on ne connaît pas l'origine ni la finalité. Il viendrait d'une autre planète. Il daterait d'il y a 13 000 ans et son nom est suffisamment guerrier pour donner quelques frissons. On l'appelle le Chevalier Noir. Sur Internet, on peut lire que sa présence a d'abord été détectée par l'inventeur serbe Nikola Tesla en 1899, puis qu'elle a été confirmée à de nombreuses reprises au cours du XXe siècle, notamment par un vétéran de l'armée de l'air américaine, puis par Gordon Cooper, l'un des premiers Américains à aller dans l'espace.
Alors, il y a une part de vérité dans tout ça ou pas, Nicolas ?
Tesla a bel et bien perçu des signaux radio, mais il n'a jamais mentionné un quelconque chevalier noir. Les scientifiques estiment désormais que ce qu'il avait capté, c'était des ondes émises par des pulsars. Le vétéran de l'armée de l'air, lui, s'était reconverti dans l'écriture de livres sur les ovnis. C'était donc son fonds de commerce.
Oui.
Quant à l'astronaute Gordon Cooper, il a effectivement dit avoir vu plusieurs fois des objets volants non identifiés. Mais alors qu'il était au sol, pas pendant l'une de ses missions spatiales. Or, c'est ce que clament ceux qui propagent la légende du chevalier noir pour lui donner plus de poids. Quoi qu'il en soit, des témoignages oraux, c'est bien, mais rien de tel que des images pour apporter une preuve de l'existence de ce satellite.
Mais alors, il y en a justement ou pas ?
Il existe plusieurs photos représentant le chevalier noir, d'après ce qu'on peut lire sur le web. Elles ont toutes été prises en décembre 1998, lors de la première mission de la navette Endeavour vers la station spatiale internationale. En janvier 2013, un site spécialisé dans les ovnis a signalé que les images avaient été retirées du site de la NASA, sans doute pour masquer des preuves. En réalité, le site a simplement été réorganisé et les photos sont toujours disponibles. Il faut dire que ce qu'elles montrent n'est pas très sensible. Le soi-disant chevalier noir qu'on y voit, c'est une des couvertures thermiques que les astronautes devaient fixer sur une partie de la navette. Mais au cours de la sortie dans l'espace, l'un des membres de l'équipage l'a laissé échapper. Lorsqu'il a été interviewé sur cette légende du chevalier noir qu'il a contribué involontairement à alimenter, cet astronaute a dit « Si nous voyons quelque chose là-haut, nous serons les premiers à poser des questions et à dire que nous avons vu quelque chose que nous n'avons pas compris. Les théories du complot, c'est amusant pour ceux qui les élaborent, mais c'est gâché de la puissance cérébrale.
Nicolas, merci. On peut découvrir votre autopsie d'une photo et des images sur franceinter.fr à retrouver en lien sur la page de l'émission.